Et bonjour à toutes et tous, c'est Philippe Caillart qui une fois de plus nous a accueillis chez lui et cette fois-ci pour parler d'un jeu dont on parle aussi beaucoup puisque Philippe Caillart a quand même une actualité foisonnante, surtout pour le mois de juin. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors on a parlé d'Underground qui sortait au mois de juin, on a parlé d'Evo qui sort chez Asmodée en juin aussi. Olympos, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir.
Alors il devait sortir en avril, puis en mai, donc normalement c'est en juin.
Il y a de fortes chances qu'il sorte en juin. Alors Olympos, justement, je suis désolé Philippe, mais on retrouve Philippe Caillart là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a de la conquête, il y a de l'évolution, il y a des choix, mais il y a aussi une grande limpidité dans la mécanique. Donc finalement, Olympos, c'est quoi ?
Un jeu de civilisation. Avec les deux aspects, le territoire, donc on est sur une carte de Grèce auquel j'ai ajouté l'Atlantide. Parce qu'il fallait des îles et tout ça. Tu vois. Et à côté de ça, le développement scientifique, technologique, bien sûr, les deux sont liés. Donc chaque région rapporte une certaine matière, un accès à la matière, disons. C'est pas une ressource. C'est pas des ressources qu'on accumule, simplement. Voilà, si j'ai deux zones de grains, une zone de minerai, je peux utiliser ça à chaque tour. Et chaque découverte demande une certaine combinaison, mais aussi donne un pouvoir.
Olympos ne s'appelait pas Olympos au moment où tu l'as développé, puisque ça s'appelait Atlantis, il me semble.
Oui, il s'appelait Atlantis, là on croyait un autre nom avant.
C'est anecdotique. Mais Olympos, on se retrouve dans un jeu qui est plus gamer, et pour le coup, il va se retrouver chez Hystérie, donc là, on a tout de suite une étiquette qui nous donne une image un peu plus, peut-être moins familiale. Quoique, puisqu'on retrouve quand même une certaine limpidité au niveau de la mécanique, et c'est pour ça que je dis que là on te retrouve, c'est que il faut que ce soit plaisant dès le début, il faut qu'on s'y retrouve et qu'on n'ait pas envie de chercher dans un bottin de règles à chaque fois qu'on veut bouger un pion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui toi te tient à cœur dans le développement des jeux.
Oui, il faut vraiment qu'un jeu soit facile d'accès. En fait, les règles, on devrait pouvoir les oublier. Ça, c'est l'idéal pour un jeu.
Ouais, ça doit devenir naturel.
Quand on rentre dans un jeu, on rentre dans un univers particulier. Et si on est tout le temps occupé à regarder les règles pour savoir ce qu'on peut faire, peut pas faire, ben on n'est pas vraiment dedans. Donc l'idéal, c'est qu'on puisse effectivement qu'elle soit bien intégrée. Donc c'est pour ça qu'il faut non seulement qu'elle soit pas limpide, mais naturelle, ouais. Que ça colle bien. Je veux dire, si on fait quelque chose dans le jeu au niveau thème, il faut que ça colle bien au niveau des règles, ouais. Et qu'il y en ait effectivement le moins possible. On peut avoir pas mal de règles si elles servent à quelque chose, disons.
Oui, donc dans le cas de Small World, par exemple, on a une multitude de peuples, mais on en a constamment 5 qui sont visibles, et c'est peut-être pour ces 5-là qu'on va aller voir les règles, et pas pour tous les peuples à chaque fois. Donc c'est là qu'on retrouve cette espèce de limpidité où on va voir la règle, mais juste pour un point spécifique. C'est ça que tu veux dire.
Ah oui, mais dans ce cas-là, donc déjà tout est sur la table, c'est ça que je voulais, qu'il n'y ait rien caché, parce que si on veut que des plus jeunes puissent jouer... Comme effectivement, si on regarde au total, ça fait beaucoup de règles avec tous les peuples, tous les pouvoirs qui existent. Mais simplement, on en tire. Allez, chaque fois que quelqu'un a un peuple, on tire le suivant. Et bien, il suffit d'aller lire ces deux petits paragraphes-là et ça va très vite.
Alors on l'a vu, justement, il y a entendu quelques remarques par rapport à l'impôt. C'est que justement, on te retrouve clairement dans cette logique-là. C'est que tout est sur la table, tout est clair et on peut très facilement oublier les règles une fois qu'on a compris la mécanique de base du jeu. Donc tu l'as dit, c'est un jeu de conquête, donc on a effectivement une carte de Grèce qui est divisée en régions, mais là où il y a une mécanique qui est assez innovante, c'est la manière dont c'est le moyen qu'on doit utiliser pour se déplacer de région en région et se confronter aux personnes qui seraient éventuellement dans la même région. C'est que tu as mis une logique de consommation de temps et non pas de distance ou de carte à mettre sur la table pour pouvoir y aller. Et c'est là qu'on parle de limpidité, c'est que se déplacer, bah, finalement... thématiquement, c'est consommer du temps.
Oui, donc ici on n'est plus en... Enfin, le système classique, c'est que tu divises un jeu en tronçons qui sont de même durée ou n'importe quoi, et on a une ou plusieurs actions dedans. Ici, je trouvais que ça marchait mieux de faire l'inverse. Chaque action coûte du temps, et puis on joue en fonction du temps qu'on a dépensé ou pas.
C'est ça. Mais le temps, ce n'est pas un sablier qui tourne, c'est en fait du temps que tu prends sur une échelle de temps.
Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu comme une monnaie. Hein. Donc, mais une monnaie où chacun aurait régulièrement la même somme à dépenser. Et en fait, j'avais même commencé comme ça. Mais voilà, c'était plus simple. Une roue du temps, c'était plus logique. Au début, on recevait le temps sous forme de jetons, disons, et jouait celui qui en avait encore le plus.
Ça veut dire que le jeu se termine quand tout le monde a consommé son capital de temps?
Oui, c'est ça. Vers la fin, c'est un peu variable, puisqu'on peut s'arrêter plus tôt et gagner un bonus en point de victoire si on n'a plus rien à faire. Ou bien on peut dépenser un peu plus de temps, mais il faut que ça vaille la peine.
Et cette échelle de temps se retrouve tout autour du plateau sur lequel on retrouve la carte. Et tu l'as dit, sur chaque région, il y a donc des ressources. Si on est présent dans la région, on a les ressources. Et ces ressources vont nous permettre d'acheter des choses qui sont sur un autre plateau, qui sont en fait des avancées technologiques qui permettent de faire quoi, par exemple?
Ah ben de tout. Il y a... En fait, c'est lié aux principaux éléments du jeu. Donc, ça peut permettre de faire des mouvements plus intéressants. Il y a tout ce qui est maritime. Donc, les déplacements maritimes coûtent assez cher sur le plateau. Et donc, on peut les diminuer. On peut aussi améliorer sa force de combat. Donc, même un combat coûte simplement du temps. On gagne toujours.
Oui. C'est là que thématiquement, je dis qu'on se retrouve là-dessus, c'est que c'est d'une simplicité évangélique. C'est-à-dire, j'arrive sur une région, s'il y a quelqu'un... Si je suis plus faible que lui, ça va prendre plus de temps pour le combattre, mais de toute façon, je vais gagner.
Oui, donc ici, une échelle de temps, l'échelle de temps représente, je ne sais pas, peut-être 10 ans, enfin, en tout cas dans mon esprit, c'était un peu ça, 10 ans pour un point de temps. Et donc, ce n'est pas une bataille qui se joue sur une journée, c'est plus une invasion qui va prendre un demi-siècle. Ça, c'était un peu l'idée. Et donc, évidemment, si on est moins fort, ça coûte plus de temps, mais par contre, pour l'autre, pour revenir, ça, lui il va payer rien du tout. Donc, c'est... Il y a aussi une histoire de timing. Donc, si on prend une région à un plus fort, il y a intérêt à en profiter vite parce que s'il veut revenir, ben, il revient. Et à la longue, c'est perdant pour celui qui est moins fort.
Ouais. Et donc, dans les avancées technologiques, on parlait de déplacement. Donc, il y a moyen d'aller plus vite sur l'eau, il y a moyen d'aller plus vite sur terre, mais il y a aussi d'autres avancées qui permettent d'avoir d'autres avantages.
Alors, il y a des avancées qui jouent sur la technologie elle-même. Hein. Donc, ils vont donner une réduction, mais pour certains types d'avancées. Donc, c'est pas... Mais comme chaque avancée liée à un ou deux types de terrain, souvent en général c'est deux, il y a, par exemple, on pourrait avoir une avancée qui donne une réduction sur tout ce qui demande du grain. Donc évidemment, si on ne l'utilise pas, on l'a pris pour rien. C'est un peu l'idée de toutes ces technologies, elles sont toutes bien. Donc au début, a priori, on peut prendre un peu ce qu'on veut pour la première, mais après, l'idée c'est de construire quelque chose de cohérent. Si on achète n'importe quoi et qu'on ne l'utilise pas, ça coûte beaucoup de temps pour rien.
Oui, c'est ça. Dans cette mécanique de consommation du temps, c'est pas celui qui va en consommer le plus qui va arriver le plus loin, évidemment, puisqu'on a plein de blocages de ce type-là. Quelles sont les choses que tu as mis au bac, justement, pendant le développement de ce jeu-là?
À un moment, j'avais deux types de pions différents, finalement, qui étaient un peu les sédentaires et les nomades, mais ça bloquait un peu plus le jeu. Mais ceci dit, on peut aller aussi loin qu'on veut, simplement. Donc on commence dans le nord de la Grèce, c'est pas, on a un peu comme des barbares qui descendent. Et donc tout en bas, si on traverse la Grèce, on peut traverser la mer, se retrouver à Atlantis. Mais donc je peux faire ça, je pars avec mon premier pion, je dis ok, moi je traverse toute la carte, je dépense 20 unités de temps, et pendant ce temps, les autres, le temps que je rejoue, ils auront envahi la moitié de la carte, parce qu'ils vont faire leur déplacement pour 2, 3, 4 unités de temps.
Mais ça ne c'est pas pour autant qu'on se déforce, parce que c'est équilibré de cette manière-là, de toute façon.
Ah, mais l'idée c'est de gagner du temps en fait. Oui, c'est ça. Donc si je dépense beaucoup de temps pour quelque chose, il intéresse que ça en vaille la peine. Traverser le plateau, par exemple, ce serait une très mauvaise idée, parce que au prochain tour, le plateau est plein, j'ai plus de place. Voilà.
Et le fait d'être sur Atlantis, justement, a un avantage, au-delà du fait que c'est assez loin dans le plateau?
Il y a un petit avantage en fin de partie, mais c'est surtout, en général, soit quelqu'un est très fort, donc il est plus, simplement il se fait de la place où il veut, et donc lui, il n'aura pas intérêt à voyager très loin. Ou bien on va développer justement en plus une civilisation maritime, et là-bas on aura la paix. C'est ça, c'est l'idée, que plus on est loin, plus on est loin des bourrins aussi. Donc toutes les civilisations sont possibles. C'est pas un jeu de conquête à la base. La conquête en fait partie, mais...
C'est un jeu de quoi, là?
De développement, de civilisation.
Enfin.
Et donc les civilisations militaires, c'est possible, mais c'est tout à fait jouable d'ailleurs, mais c'est qu'une des options possibles. Ouais. On peut aussi être très fluide et pouvoir bouger facilement, ça c'en est une autre, se concentrer sur la science ou sur certains types.
Donc on retrouve aussi plusieurs manières de jouer en ayant utilisé énormément de pistes différentes, et c'est là qu'on retrouve peut-être aussi une touche Kayerte malgré toi.
C'est l'idée d'un jeu de développement. Hein. On construit quelque chose et on construit tous la même chose. Et que le plan est fixé d'avance, c'est pas intéressant. Hein. Si on peut faire aussi n'importe quoi et que ça marche toujours, c'est pas intéressant non plus. Donc, c'est vraiment, on construit et il faut construire quelque chose de cohérent. Hein.
Et donc, le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire, j'imagine. comment est-ce qu'on les gagne finalement?
Mais tout est en point, donc c'est beaucoup les technologies, on peut construire des merveilles, toutes les régions qu'on aura à la fin vaudront encore quelques points. Il y a aussi un système de cartes événements qui permet de gagner des points. Il y en a, oui, enfin, il y a plusieurs façons de gagner. Bon,
oui, c'est voilà. Ça. Mais le fait d'être sur Atlantis, tu disais, offre plus de points ou...
Oh, c'est 2 points à la fin plutôt qu'un pour les régions. C'est pas
le but en soi.
Non, non, pas du tout. C'est une des façons de nouveau parmi d'autres. Donc ça compense un peu le fait que ça coûte assez cher d'y aller.
Le jeu est en développement depuis combien de temps?
Ouh, ça fait bien 5 ans. Donc, Oui, c'est par hasard que tout arrive au mois de juin. Ça, c'est le hasard. Atlantis, ça fait 5 ou 6 ans, la toute première version. Hein. Ouais. Enfin, donc, quand j'ai commencé à y réfléchir, ça savait bien faire ça. Hein.
Et tu l'avais déjà proposé à plusieurs éditeurs ou c'est, tout d'un coup, tu t'es dit je le propose à Hystery parce que ça rentre dans sa gamme?
Celui-là, non, c'est le premier que je l'ai proposé. C'est simplement, voilà, au moment où on a discuté de jeu, celui-là était prêt. Ouais. J'aime pas proposer les choses quand elles sont encore en développement ou je suis pas sûr d'arriver au bout. Donc ça, c'est un peu mis comme ça.
Qu'est-ce qui détermine pour toi qu'un jeu est prêt?
Ah, quand je suis sûr d'y arriver au bout, en fait. Il doit pas être terminé, ouais. Mais les jeux ont souvent des phases. Ça avance pas en continu, c'est rare. Je crois qu'Evo est le seul où j'ai avancé d'un coup, du début à la fin. Sinon, c'est surtout souvent par palier. Il y a une série de choses qui fonctionnent, mais c'est pas encore satisfaisant. Ouais. Et parfois ça bloque un petit peu, et parfois alors il vaut mieux le laisser. Je le laisse. Hein, c'est... Ouais, c'est Atlantis, j'ai pas travaillé 5 ans en continu dessus. Hein, il y avait une période où pendant un an et demi, j'y ai pas touché du tout. Et puis à un moment, j'ai une idée pour relancer les choses, je le reprends, et alors c'est de nouveau intensif.
Et typiquement des choses qui ne marchent pas pour quelqu'un qui n'a jamais développé de jeu. Je veux dire, tu joues au prototype et tu dis ça ne marche pas. Mais un exemple de ce qui ne marchait pas que tu as dû revisiter?
Ouais, ben, la première version, on était un peu sur des rails. Une fois qu'on choisissait une stratégie, on était un peu forcé d'y aller pendant longtemps. Et puis on arrivait au bout de celle-là et on ne savait plus très bien quoi faire ou il fallait vraiment recommencer. Et du coup, parce que par exemple, le militaire était lié tout à fait au métal, l'or c'était pour tout ce qui était divin et tout ça. Mais donc, c'était, une fois qu'on rentrait dans un truc, on avait vraiment intérêt à continuer là-dedans et pas à diversifier.
Comment est-ce qu'on arrive justement à diversifier ça? Quels sont les grains de sable qu'on met pour justement offrir plusieurs chemins?
Ah ben donc là, au lieu d'imprimer toutes les technologies sur une feuille, j'en ai fait des pions. Et donc le setup est aléatoire à chaque partie. Donc il y a quand même y a une espèce d'arborescence. Donc on a parfois intérêt à faire certaines choses plutôt que d'autres, mais c'est devenu beaucoup plus... D'abord, c'est varié. D'une partie à l'autre, c'est changé. On n'aura pas une théorie des ouvertures où on dit je vais faire ça, puis ça, puis ça, et c'est ça qui gagne. Et en plus, ça permet plus de diversification. Donc, déjà maintenant, les coûts, c'est 2 matières. Avant, c'était qu'une seule. Et donc, c'est vrai que si j'ai pris une zone d'or, j'ai intérêt à acheter quelque chose qui demande de l'or plusieurs fois pour rentabiliser ma région. Mais déjà, j'ai plusieurs embranchements possibles.
Au départ, il y avait déjà un arbre de développement technologique qui faisait que telle technologie permettait d'en développer d'autres. Ça, c'était déjà le cas, mais c'était trop dirigiste.
Ce n'est pas une technologie qui permet d'en développer d'autres ici. Hein. Mais c'est simplement, comme elle demande les mêmes régions, disons, j'ai intérêt à rentabiliser mes régions puisque chacune des régions que j'ai prises m'a demandé du temps. Si à chaque fois, pour chaque nouvelle découverte, je dois tout recommencer, ben je perds beaucoup de temps. Si je peux réutiliser mes régions, évidemment, il n'y a pas de technologies qui ont le même coût, ça se fait exprès, et les combinaisons sont un peu éparpillées. Donc c'est là que je dis qu'on a plus ou moins une arborescence, puisque ben, si j'ai de l'or, après, ok, quel deuxième terrain je vais prendre? Soit du minerai qui me conduit par là, du grain qui me conduit ailleurs. Il faut mélanger ces deux-là, qu'est-ce que je fais comme troisième? Si je peux en réutiliser une ou deux, c'est pas plus mal. Il y a aussi tous les pouvoirs que j'ai acquis, donc ils vont me faciliter certains types de mouvements plutôt que d'autres.
Donc ça veut dire qu'un tour de jeu devrait se réfléchir de façon à rentabiliser au mieux la situation dans laquelle on est, plus que de faire vraiment sur du très long terme.
C'est un peu entre les deux, disons. Les décisions ont du sens à long terme, parce que... Si j'achète un pouvoir, j'ai vraiment intérêt à pouvoir m'en servir après, donc j'ai quand même intérêt à réfléchir. Sinon, ben, simplement, effectivement, j'ai acheté la tuile qui me vaut quelques points.
Le comptage de points a lieu à la fin du tour, ou bien on a, je veux dire, faire un parallèle avec Small World, où à chaque fois on compte, en fin de tour, on compte ses points?
Non, c'est en fin de jeu. Ouais, une partie des points sont matérialisés par des jetons, parce qu'ils viennent des cartes et tout ça. Mais tout le reste, c'est les technologies et les merveilles, et tout ça, c'est compté en fin de jeu.
Bien. Eh bien, merci Philippe, et à très bientôt.
À bientôt, mais pour aujourd'hui, j'ai plus de jeu.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres.